Ou plutôt bonjour, là, parce qu'il fait jour, on est le mercredi 25 juin, on est à la Friche, mais bien sûr, ça y est, c'est l'été, il fait jour tard, il fait même très chaud. Et on est comme d'habitude à la technique avec Sidi, qu'on remercie beaucoup. Sidi prendra ses vacances en août, mais voilà, on est présent toujours pour l'émission Une heure en Palestine sur Radio Galère. Je suis là parce que je fais partie de Palestine 13, donc il y a plusieurs structures qui animent à tour de rôle cette émission. Parfois c'est l'Union Juge Française pour la Paix, parfois c'est CEDEC, parfois c'est donc, on avait l'émission dernière, le mois dernier, toute une équipe du Festival Ciné-Palestine. Voilà, mais enfin l'été est là, alors d'autres étés souvent, moi, c'était plutôt des émissions en replay. Là, vu les actualités, on va faire le maximum pour qu'il y ait le plus possible d'émissions en direct pendant cet été. Et je suis très heureux d'accueillir à nouveau au studio Rislen, qui est maintenant une fidèle de l'émission que j'essaye d'animer et à laquelle je donnais pour titre des nouvelles des Palestiniens de là-bas et d'ici. Alors de là-bas, on va entendre très vite une autre jeune femme qui nous a rejoint, qui s'appelle Marie, qui s'était installée à Marseille il y a quelques mois, qui a vécu longtemps à Ramallah et qui est la co-réalisatrice d'un très très beau podcast qui s'appelle « Yalla, je t'emmène ». On aura également une autre dame qui s'appelle Dalia, qui est de Martigues et qui fera un témoignage vraiment très très émouvant sur ce qu'elle a vécu en tant que participante à la fameuse nouvelle marche mondiale pour Gaza qui a eu lieu au départ de l'Égypte. Voilà. Mais enfin, avant tout, il se passe tellement de choses que je rappelle à tout le monde que pour suivre un peu tous les événements qui ont lieu à Marseille et dans la région, toujours pour soutenir la cause palestinienne, il y a le site Asso Palestine 13. C'est un site internet qui est très bien fait, avec énormément d'informations sourcées, mais surtout un agenda de manifestations locales. Et en particulier, donc nous sommes le mercredi 25 septembre, et tout à l'heure, là, à la fin de cette émission, à la Vieille Charité, le CIPM, c'est-à-dire le Centre International de Poésie de Marseille, invite à Marseille 4 poètes pour une grande soirée de rencontres et de lectures. Alors en fait, c'est un événement qui fait suite à un événement parisien. Et donc voilà, dès que cette émission est finie, ceux qui entendent, ceux qui n'étaient pas au courant, ben rendez-vous à la Vieille Charité pour de la poésie. Et puis, dans les dates qui viennent tout de suite également, on a eu hier, ça s'est passé au cinéma Le Gyptis, avec cette équipe extraordinaire qui s'appelle CEDEC, tout un travail sur ce qui se faisait avec des documentaires qui sont rassemblés sous le titre From Ground Zero. From Ground Zero qui fait un petit peu l'analogie entre l'effondrement des tours jumelles à Manhattan et puis l'effondrement de plein de bâtiments, de monuments, d'universités, d'hôpitaux à Gaza. Mais donc cette fois, c'est à nouveau au Gyptis que nous avons rendez-vous. C'est ça, le 28. Alors le 28, ben, je pense que c'est dans 3 jours, là, hein. Ça sera donc samedi. Et cette fois, ça sera toute une soirée autour de Put Your Soul on Your Hand and Walk. Voilà. Et puis, on a également donc de la poésie, du cinéma. On a également cette chance en France où beaucoup de choses vont mal. Mais malgré tout, on a encore ces fameuses exceptions culturelles sur le livre, sur le cinéma. Et donc voilà, rendez-vous dans ces différents lieux. On a eu également, en début de semaine, la présentation d'un nouveau livre qui a été réalisé à la librairie Maupetit. C'est un livre réalisé par deux dames, décidément il y a beaucoup de dames dans cette émission, qui s'appellent donc Stéphanie Lata Abdallah et Véronique Bontemps, qui viennent de sortir un livre aux éditions Actes Sud Sinbad qui s'appelle « Gaza ». Une guerre coloniale. Et donc ce livre sera de nouveau présenté, cette fois à la librairie Transit, au 51 du boulevard National. Et la date, j'essaie de la retrouver, il y a tellement d'événements. Voilà, eh ben, c'est tout simplement demain. Hein. Demain, jeudi 26, à 19h, rendez-vous à la librairie Transit, au 51 boulevard de la Libération, pour la présentation du livre « Gaza, une guerre coloniale ». Voilà, et donc en ce moment, il se passe des choses absolument terribles, indescriptibles et imprévisibles du jour au lendemain. On voit bien, pour ceux qui en doutaient encore, que ce qui se passe en Palestine depuis des décennies, ça n'a rien à voir ni avec une guerre de religion, ni avec une guerre tout court d'ailleurs. C'est une entreprise coloniale, impérialiste et génocidaire, bah, qui a commencé finalement à la Nakba en 1948, mais bien avant. Et certains parlent de la Nakba comme un événement historique, comme il était terminé, mais non, il se continue jour après jour. Et là, depuis le 7 octobre, il y a une fuite en avant terrible de Netanyahou qui passe par-dessus absolument tous les textes internationaux, tous les traités internationaux, puisque lui et son équipe se réclament de textes messianiques de droit divin. Et puis par ailleurs, on a son allié. Alors on ne sait plus trop d'ailleurs qui est l'allié de qui, mais on a du côté donc des États-Unis là, Donald Trump, qui là, lui a fait fi à l'intérieur de son pays de tout un tas d'organismes qui permettaient de réguler le pouvoir, mais au niveau international également. Donc on parlait à ce moment-là, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, voilà, d'accords internationaux, de multilatéralisme, etc. Mais là, en ce moment, on assiste à un unilatéralisme, encore un monolatéralisme états-unien, encore qu'on n'est pas sûr s'il n'y a pas plusieurs personnes dans le cerveau de Donald Trump. Enfin bref, toujours est-il que il s'est passé un événement, encore un événement qui rentre dans l'histoire, malheureusement, c'était le vendredi 13 juin. À ce moment-là, nous étions, nous, à l'Estac. Là, il y avait la première journée d'un très beau événement qui s'est démarré, qui s'appelle Fête le Grand Estac pour tous. Alors, au quai de l'espace Mistral, là où arrivent les navettes RTM qui permettent d'aller du Vieux-Port à l'Estac, on avait un grand voilier bleu, un catch associatif qui s'appelle Goéland, qui ressemble beaucoup d'ailleurs au bateau bleu, la Madeleine, qui récemment a été un nouveau bateau de flottille pour Gaza, qui a mené entre autres Greta Thunberg et Rana Hassan, et qui, comme d'habitude, bien sûr, s'est fait arraisonner. Les équipages ont subi des violences. D'ailleurs, on a un médecin marseillais qui est revenu et qui témoigne. On voit à quel point il a été traumatisé par cet événement. Enfin bref, pendant donc que nous étions à l'Estac ou sur ce bateau Goéland, nous avions exposé l'expo de photos qui avait été prise dans les années 2010 par Sarah Katz et Pierre Stamboul. Sarah Katz, donc, qui vivait à Gaza et qui avait pu embarquer sur les derniers chalutiers qui pouvaient pêcher, par exemple, à 25 000 décotes. Mais à peine arrivait-il à 5 000 décotes, bah, il se faisait assaillir, traquer, endommagé par des gardes-côtes israéliens. Donc on avait pu exposer ces expos de photos. Et puis la nuit venue, grâce à l'Alhambra qui nous a prêté un vidéoprojecteur, on a pu projeter sur les voiles de ce bateau des documentaires, des images. Et pendant ce temps, il s'est passé ce qui s'est passé, c'est-à-dire un déclenchement, cette fois, d'une vraie guerre entre une attaque de l'Iran par Israël. Et à ce moment-là, on a donc Marie qui était sur place et qui nous a envoyé un témoignage, on va dire, de l'ambiance en l'air et à terre à Ramallah le jour du vendredi 13 juin. Donc je rappelle que Marie est la co-réalisatrice du podcast Yalla, je t'emmène, qui mérite vraiment d'être écoutée. Voilà, on entend Marie depuis Ramallah.
C'est un vendredi matin, le 13 juin. C'est donc un vendredi 13 qu'à Ramallah, on se réveille avec les nouvelles. Israël a attaqué l'Iran.
Dans le ciel de Téhéran, des tirs en pleine nuit. Pendant 3 heures, le territoire iranien est visé par Israël. Ce matin, l'Iran dit avoir le droit et le devoir de se défendre, faisant craindre à nouveau une escalade du conflit dans la région.
Ici, c'est un vendredi, premier jour de week-end pour les Palestiniens et Palestiniennes, alors les rues sont calmes. Pas beaucoup de voitures, pas beaucoup de passants, voire pas du tout. À un détail près, ce bruit. Alors oui, les oiseaux, eux, continuent de gazouiller. Mais pendant ce temps-là, au-dessus de Ramallah...
Et comme on peut l'entendre, le ciel gronde beaucoup plus que d'habitude. On voit rien dans le ciel. Pour l'instant.
L'Iran a annoncé avoir déjà entamé la riposte. Tout le monde est suspendu aux chaînes d'information en continu parce que cette fois est différente. Israël et l'Iran sont des ennemis de longue date et ne s'en cachent pas. Ce n'est pas la première fois que la région tout entière assiste à l'ostensible inimitié entre ces deux pays. Le 1er avril 2024, Israël avait une première fois attaqué le consulat iranien à Damas, en Syrie. Puis 7 mois plus tard, en octobre de la même année, l'Iran répond aux assassinats du chef du Hamas, Ismaël Haniyeh, dans un bombardement israélien à Téhéran, capitale iranienne, ainsi que du chef du Hezbollah libanais à Beyrouth, Hassan Nasrallah. À chaque fois, ces attaques ont donné lieu à une riposte iranienne. Mais cette fois, l'offensive israélienne est différente parce qu'elle est directement dirigée contre l'Iran, ses installations militaires, des hauts gradés de son armée et des scientifiques nucléaires. Il y a aussi des civils qui ont été tués dans cette attaque, et en plus de tout ça, L'offensive israélienne s'est faite par les airs, mais aussi depuis le sol iranien, avec des agents infiltrés du Mossad, c'est-à-dire des services de renseignement israéliens. Toute la journée, les habitants de Ramallah étaient suspendus à la réponse de l'Iran qui est arrivée dans les alentours de 21h, ce même vendredi 13 juin. Dans l'extrait qui va suivre, on entend d'abord retentir des sirènes. Ce sont celles de Jérusalem, à une quinzaine de kilomètres au sud de Ramallah. Ce sont aussi celles des colonies illégales israéliennes installées en Cisjordanie, à proximité directe des villes, y compris Ramallah. Précision, les sirènes sont organisées par et pour les Israéliens. Elles leur indiquent qu'une menace est en approche et qu'ils doivent se rendre dans les bunkers prévus à cet effet. Ces protections antimissiles n'existent pas pour les Palestiniens et Palestiniennes. Et puis au bruit de sirènes va se superposer celui des missiles iraniens. Écoutez. Quant au sifflement que vous entendez, ce sont les habitants de Ramallah. À défaut de pouvoir se protéger, les Palestiniens, eux, passent une tête dehors pour voir les missiles iraniens voler dans le ciel et se diriger vers Israël. Depuis Ramallah, on voit aussi clairement les missiles du dôme de fer israélien, ce système de défense anti-aérien financé par les États-Unis qui intercepte les missiles. Ce bruit sourd que vous avez entendu dans l'extrait, en plus des sirènes, est impressionnant parce qu'il est accompagné de vibrations dans le sol. Les fenêtres des maisons tremblent et les murs aussi. Alors la question c'est, comment est-ce que c'est possible que depuis la Cisjordanie, on ressente les missiles de l'Iran qui atterrissent en Israël? Parce qu'il y a une chose qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que c'est un tout petit territoire. Il n'y a qu'une cinquantaine de kilomètres qui sépare Ramallah de Tel Aviv. Alors depuis la Cisjordanie occupée, les Palestiniens regardent, observent, comme des spectateurs, et ce depuis maintenant plus d'une dizaine de jours. Un laps de temps pendant lequel Israël n'a pas cessé les autres de ses combats, alors même si l'attention de tout le monde est désormais tournée vers ce nouveau front Israël-Iran, les autres continuent aussi. Le jour de l'attaque israélienne, la Cisjordanie a été complètement verrouillée par des barrages militaires israéliens. Les incursions de l'armée et les attaques de colons israéliens continuent, tout comme la désastreuse crise humanitaire et les bombardements à Gaza.
Voilà, on remercie beaucoup Marie. Son témoignage est très précieux parce que je rappelle que nous ne sommes pas, nous, des journalistes qui animons cette émission Une heure en Palestine. D'ailleurs, même les journalistes professionnels ont extrêmement de mal aujourd'hui à commenter ce qui se passe, tellement ça sort tout à fait des cadres habituels. Mais nous avons la chance d'avoir sur le terrain des gens très précieux comme Marie. En ce moment, il y a également le cinéaste israélien Eyal Sivan qui est en Palestine et qui reviendra à Marseille, à laquelle d'ailleurs on espère faire prochainement une émission. Et donc, moi, c'est ça qui est très, très précieux, c'est d'avoir des gens sur place qui nous disent exactement ce qui se passe, qui nous en font entendre les sons qui se produisent. Et donc, on peut comprendre l'actualité. En même temps, ce qui est terrible, c'est que j'ai sous les yeux un petit livre là, qui a été édité aux éditions La Courte Échelle et éditions Transit. Et c'est un recueil de seulement 18 poèmes d'un ensemble beaucoup plus complet qui a été écrit en 2004, donc il y a 20 ans maintenant, par une Palestinienne qui s'appelle Rana El-Khatib et qui, à l'époque où, en 2004, elle vivait aux États-Unis, avait édité un gros livre dont le titre en anglais m'échappe à l'instant. En tout cas, ce petit recueil de 18 poèmes, si je prends le deuxième au hasard, donc je répète, ce poème date d'il y a 20 ans, à un moment où peut-être des gens comme moi ou comme d'autres ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus difficile de ne pas comprendre quand on voit les images qu'on voit, quand on a justement des témoignages comme celui de Marie, ou comme on va l'avoir tout à l'heure, le témoignage de Dalia, qui revient tout juste de la nouvelle marche mondiale qui est parti d'Égypte mais qui n'a pas pu arriver à Rafah. Alors je dis juste donc le deuxième petit poème de cette Palestinienne, je répète, c'est un livre qui est édité en 2004 à La Courte Échelle aux éditions Transit. Et ce poème s'intitule « Le lexique du juste ». Vous êtes pour le monde les symboles de cette histoire honteuse, un monde responsable de sa propre passivité. Pourtant, quand la preuve est évidente de votre propre tyrannie, vous détournez la tête sans examen minutieux. Vous justifiez vos incursions contre une entité vivante, défendant bruyamment votre antipathie raciste. Vous restez piégé par les annales de l'histoire, vous aveuglant sur votre propre brutalité. Vous n'osez pas reconnaître votre propre agression. Comment les victimes peuvent-elles être maintenant les maîtres de l'oppression ? Comment, quand cela ne s'applique qu'à votre pratique cruelle, vous avez commodément effacé le mot « injustice ». La seule démocratie, votre proclamation routinière. Les victimes de la théocratie, leur peur quotidienne. Voilà. Donc je rappelle qu'à la fin de cette émission concernant la poésie, à la Vieille Charité, il y a toute une soirée avec également des poètes et des poétesses palestiniennes. Il y a Maya Abou Alayat, Int Joudeh, Ninda Younis et Raed Wesh qui vous attendent donc au Centre International de Poésie de Marseille, à la Vieille Charité. Alors maintenant, on va essayer d'obtenir par téléphone la connexion avec Dalia. Dalia qui est à Martigues. Dalia qui fait partie du collectif Palestine, Martigues et Ouest étant de Berre. C'est un collectif qui s'est créé en 2014, suite déjà à l'époque des bombardements sur Gaza. Et ce collectif a l'immense mérite depuis des années d'organiser énormément d'événements qui impliquent systématiquement des jeunes. Ils ont réussi à faire venir il y a quelques années à Martigues des jeunes palestiniens, des jeunes footballeurs et des jeunes footballeuses aussi d'ailleurs, mais qui étaient amputés, et il y a eu des tournois de football magnifiques qui ont donné lieu à des films. Ils font venir régulièrement des troupes de DAP, qui est d'ailleurs l'actualité. J'étais donc avec Thierry, qui est l'un des coordonnateurs du collectif, qui, comme chaque année, attend une tournée de danseurs de Dapke. Le petit souci, entre guillemets, c'est que ces gens-là, d'habitude, volent avec des avions low cost au départ de la Jordanie. Mais là, jusqu'à nouvel ordre, tous les vols low cost ayant été annulés, on n'est pas sûr du tout que cette troupe de Dapke d'un centre culturel de Bethléem puisse venir. Et c'est un petit peu la même chose pour les enfants d'Hébron. En tout cas, Dalia, elle est partie en Égypte avec 8 personnes et on espère l'avoir au téléphone. Allô, Dalia ?
Oui.
Ah, ben c'est super qu'on puisse t'avoir ce téléphone. Tu nous entends bien ?
Oui, je dis bonsoir. Oui, j'entends bien.
Voilà, écoute, on t'entend bien aussi. J'ai eu la chance de te rencontrer là avant-hier à Martigues. Et j'avoue que ton témoignage de ton retour d'Égypte à laquelle tu as participé, donc à la marche mondiale pour Gaza, était extrêmement touchant. Surtout par rapport à la découverte que tu as faite de ce pays, bon, bien sûr dans un contexte très particulier. Tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé quand tu es arrivé au Caire ?
Écoute, nous, cette marche donc pour Gaza, comme tu dis, c'était une marche mondiale. C'était une initiative magnifique qui devait être une marche pour la paix, une marche pour l'humanité, une marche pour Gaza. Voilà.
Voilà.
On était parti dans cet état d'esprit.
Voilà. Alors je crois que dans ce voyage, tu avais deux objectifs. D'une part, effectivement, participer à cette marche mondiale. Mais d'autre part, je crois qu'avec le collectif, vous aviez réussi à collecter une certaine somme d'argent qui était destinée à des enfants de Gaza qui sont hospitalisés au Caire. C'est ça, Dalia ?
Oui, tout à fait. On s'était dit, si la marche ne se fait pas, d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, on avait un plan B. Un plan B, c'était, ma collègue avait fait une cagnotte litchi, et moi j'avais sollicité un peu tous les collègues et toute la famille, tout le monde. On avait réussi à peu près à avoir 4000 euros.
D'accord.
Et on s'est dit qu'avec cette somme, on irait visiter les hôpitaux, irait visiter les familles.
D'accord. Alors attends, ça on va y revenir, mais je suis désolé, quand tu me dis maintenant que la marche n'a pas eu lieu, plus exactement, elle n'a pas pu arriver à Rafah, mais elle a eu lieu, puisque tu m'as raconté que vous vous êtes retrouvés. Alors du coup, moi ça m'a frappé, parce qu'il fait un petit peu chaud chez nous, et tu nous dis que la marche elle se passe à travers le Sinaï. Donc c'est ça que je voudrais que tu nous racontes, parce que j'avoue que ton récit a été extrêmement émouvant.
Tout à fait. Oui, écoute, cette marche, on devait déjà, nous, avant de venir, on nous avait prévenu... De venir comme des touristes, pas avec des sacs à dos, pas avec... Donc ce qu'on a fait, on est passé facilement, aussi bien à la douane que dans les checkpoints. On a passé le premier, le deuxième, le troisième, en se disant, ça y est, on y est, on va être à Smadia et on va pouvoir aller jusqu'à Rafah. Malheureusement, arrivé au troisième checkpoint...
Attends, excuse-moi, tu vas même pas trop vite, il y a un truc qui m'échappe. Oui. Donc vous avez effectivement marché dans le Sinaï, mais j'imagine que les conditions étaient très difficiles, qu'il faisait très chaud, ça se passait comment la marche en fait ?
On n'est pas arrivé au Sinaï, c'est ce que je t'explique.
D'accord.
On nous a enlevé le passeport à la porte d'Esmalia.
D'accord.
Voilà.
Ok.
Et on nous a refoulés.
Quand tu dis on nous a refoulés, si j'ai bien compris, il y a eu... Tu as senti, si j'ai bien compris, beaucoup de violence, enfin de violence en tout cas,
oui,
déjà dans les hôtels du Caire. Et donc, il a fallu vous faire passer pour des touristes. Et donc, quelque chose a pu démarrer. Et là, d'un coup, vous vous êtes retrouvé devant un premier checkpoint.
Oui.
Et puis un deuxième. Et là, je crois qu'il y a eu une histoire avec vos passeports. On vous a confisqué les passeports. Qu'est-ce qui s'est passé ?
Oui, on est arrivé au troisième parce que la plupart des gens qui ont été, ils ont été au premier et au deuxième.
Oui.
Nous, on est arrivé jusqu'au troisième. On s'est dit, ça y est, on y est. Et du coup... On arrive au troisième, ils nous arrêtent, vous descendez, vous allez où ? On leur a dit qu'on allait à un restaurant qui se trouvait à Ismaïlia, on leur a donné le nom du restaurant. On a tout fait comme il faut. Mais bon, ils nous ont arrêtés, ils nous ont pris les passeports. On est resté trois heures sous le soleil. Voilà. Après, ils nous ont rebroussé chemin et retourné vers le deuxième checkpoint.
Oui, mais attends, tu vas un peu trop vite parce que du coup, j'ai l'impression que c'est un peu plus à chaud. Moi, quand tu m'as raconté ça, tu m'as raconté que vous vous êtes retrouvé là, à ce fameux troisième checkpoint avec des gens en armes, plus que menaçants, violents.
Philippe, on nous a refoulés du troisième.
Oui.
On a été au deuxième checkpoint.
C'est ça, mais
et
vous...
là, il y avait tout.
Mais vous sentiez que ça commençait à mal tourner quand on vous a confisqué vos passeports et vous ne vouliez pas partir du troisième checkpoint sans vos passeports.
Tout à fait.
Et finalement, vous êtes donc revenu en arrière sans vos passeports.
Oui.
Et vous êtes revenu au deuxième checkpoint et là, il s'est passé quoi?
Ben là, on nous a laissé encore 5 heures sous le soleil.
Eh ben.
Et après, il nous a rendu les passeports. Et donc, nous, on ne voulait pas partir puisqu'on était là pour la marche.
Oui.
On était là, il y avait 80 pays quand même qui étaient présents.
Voilà, c'est ça qui est important. C'était parce qu'on a entendu juste avant, là, il y avait plusieurs marches qui partaient, mais celle-là, c'était vraiment une marche mondiale. Il y avait plus de 80 pays représentés. Voilà. Et tu t'attendais.
Il y avait même le petit fils de Mandela qui était là.
Voilà, il y avait des personnalités mondiales, mais aussi.
Il y avait des personnalités importantes qui sont venues exprès. Et donc, vu qu'ils nous ont bloqués pour pas qu'on puisse aller marcher dans le chemin, on s'est dit on reste là.
Oui.
On reste sur la pelouse. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont pris des jets d'eau et nous ont aspergés de jets d'eau.
Voilà, et c'était pas pour vous désaltérer, c'était des jets d'eau violents.
Non. Après, disons que nous, on avait quand même une mission, on avait un plan B.
Voilà.
On s'est dit, on s'en va, on retourne quand même vers le Caire. Mais ceux qui sont restés, ils ont quand même été frappés, les pauvres.
Voilà, c'est ça, j'ai compris que, bon, il y en a qui voulaient absolument rester, voilà, pour témoigner de leur résistance, qui est la moindre des choses, je dirais, quand on s'engage dans une marche comme ça. Mais vous, c'est pas du tout par lâcheté ni rien, c'est parce que du coup...
Nous, on avait une autre mission.
Voilà, c'est ça, vous vouliez absolument pas que la marche ayant, je dirais, échoué, entre guillemets, puisque vous n'avez pas pu avancer à cause de la violence de l'armée égyptienne, c'est bien ça.
Tout à fait,
voilà.
Tout à fait.
Mais vous vous êtes dit, au moins qu'on ne perde pas sur les deux tableaux, et donc finalement, vous avez pu remplir la deuxième mission, c'est-à-dire vous trouver dans un hôpital du Caire, mais là, tu peux nous expliquer un peu là comment ça s'est passé?
Alors, on a été voir, donc on était dans un hôpital du Caire, d'ailleurs c'est un hôpital palestinien.
Voilà.
On a rencontré la directrice, qui est une palestinienne aussi. On était choqués parce que l'hôpital était très bien tenu, très propre. Tous les gens qui étaient là-bas, apparemment, c'est pas la même chose quand c'est les hôpitaux égyptiens. Parce qu'on a des collègues qui ont visité les hôpitaux égyptiens et ils disaient que c'était pas du tout pareil.
Oui.
On nous a très bien reçus. Nous, on a fait des enveloppes. On a été voir les gens. On leur a donné les enveloppes qu'on a fait pour chaque personne et pour chaque famille. On les a rencontrés. Tu sais, Philippe, ils te donnent une leçon de vie, ces gens. Parce que ils ont des visages épanouis. Malgré qu'ils viennent de Gaza, malgré qu'ils ont perdu plein de familles, ils ont quand même des visages épanouis,
sourires. Oui. Dalia, je sens ton émission qui vient et je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire. On entend beaucoup de gens dire, voilà, on va marcher pour Gaza pour sauver la Palestine, etc. Bien sûr qu'il y a cette ambition, mais moi, ce que je retiens, ce que me disent beaucoup d'amis, c'est que c'est la Palestine qui nous sauve, en quelque sorte. C'est la façon... En vérité, c'est la façon que ces gens ont de résister depuis tant de décennies, qui subissent tant d'injustices, qui sont déshumanisés, qui sont même infra-humanisés, traités comme des animaux, et qui, malgré tout... Mais non, c'est pas nous qui allons les sauver, c'est eux qui nous sauvent. On est bien d'accord, voilà. On est bien d'accord.
Quand tu reviens de là, tu te dis, mais c'est pas possible, parce que tracas que je vis tous les jours, c'est rien.
Bien sûr que c'est rien.
Et moi, j'ai tout perdu, tout. Philippe, une femme, elle nous montrait tous ses enfants, les 4 enfants qu'elle a enterrés. Et elle avait le sourire.
Voilà. Moi, c'est ça qui m'a marqué. Je te remercie beaucoup de ce témoignage. C'est parce que, dans un premier temps, tu as été très, très choqué de subir, toi et tous les autres, bien évidemment, la violence des autorités israéliennes. Bon, et vous avez quand même tenu le cap, je dirais, de cette deuxième mission. Vous l'avez remplie. Alors bon, finalement, on pourrait se dire qu'après une telle expérience, on n'a pas forcément envie d'y retourner. Mais j'ai bien compris que toi, tu n'es pas de ce genre-là et que tu souhaites y retourner quand ça sera possible.
Non, je veux y retourner. Voilà. Je veux pas y retourner pour faire du tourisme. Ça ne m'intéresse pas.
Oui.
Tu vois, même qu'on est resté bloqué pendant... Déjà, je n'ai pas été voir les pyramides. On n'a été rien voir. On a uniquement fait... les familles palestiniennes, on allait de maison en maison, d'hôpital en hôpital, pour visiter ces gens, pour leur donner du courage et pour leur dire qu'on est là. On est là. Okay. On est là, on sera toujours là, quelles que soient leurs conditions de vie, nous on est là.
Voilà, moi je retiens, c'est ça, hein, on est d'accord que c'est la façon qu'ont ces gens de résister, de rester dignes, de produire ce qu'ils peuvent produire, qui nous permettent à nous de continuer à avancer dans nos pauvres vies, et pour eux, voilà, c'est un échange en vérité. Voilà. Écoute Dalia, merci infiniment, récupère bien de cette marche. Et on te dit à très bientôt à Martigues, même si malheureusement la troupe de Daquet ne peut peut-être pas venir à cause des vols low cost annulés.
J'espère qu'elle va venir, franchement, on compte beaucoup. De toute façon, j'espère que les enfants de Nébron viendront si la coupe de Daquet vient.
En tout cas, merci à tout ce que vous faites là-bas du côté de Martigues et les Ternebert, et à bientôt Dalia. Merci beaucoup encore.
Merci à toi.
Allez,
au revoir.
Bon, après ce témoignage très fort, là, on a Rislaine avec nous, une autre jeune femme, donc, qui nous a proposé, je crois, une super musique et qu'on va écouter. Rislaine, tu peux juste nous dire qui tu nous as proposé d'écouter ?
Alors, il y a deux artistes, Rola Hazard et Saint Levant.
Voilà, mais pour l'instant, on commence par Rola Hazard. On reste avec des femmes, je crois. Et on demande à Sidine nous envoyer cette très, très belle musique de Palestine.
وانتو يا نشامة مني
هي هي يا فلسطين
دق الرمح بعودة ازاي
هي هي يا فلسطين
وانتو يا نشامة مني
فلسطين
واحنا شبابك فلسطين
هي هي يا فلسطين
واني عم واني عمتي
هي هي يا فلسطين
اطلع يا قمرنا وهل
هي هي يا فلسطين
وضو الكرة الأرضية
هي هي يا فلسطين
ما خلقنا تنعيش بذل
هي هي يا فلسطين
وخلقنا نعيش بحرية
هي هي يا فلسطين
حرية حرية
هي هي يا فلسطين
خلقنا نعيش بحرية
هي هي يا فلسطين
كف بكف وإيد بإيد
هي هي يا فلسطين
عن أراضينا ما
Voilà, on remercie Rislaine qui est au micro du studio Radio Galère pour nous avoir fait écouter cette musique. Je rappelle que les musiques qu'on passe, en l'occurrence là c'est Rola Hazard, elles sont souvent associées à des clips YouTube qui parfois montrent des images qu'on n'aimerait pas voir de Gaza ou d'ailleurs, et qui parfois au contraire montrent des images extrêmement gaies, et c'est le cas de celle-là. Donc merci Rislaine d'être de nouveau avec nous. Tu es là ben, parce que bien sûr tu t'intéresses énormément à la cause palestinienne, et même beaucoup plus que ça, tu t'y investis. Tu as travaillé là tout l'automne et l'hiver dernier pour la petite entreprise France Import Palestine, le fameux fipsouk.fr. Tu as travaillé donc dans la boutique Yabladi, à la place Labadier. Bon là, le fonctionnement est un petit peu différent depuis le début de cette année, depuis le mois de janvier, pour des raisons évidentes. La boutique ouvre deux après-midi par semaine. Tu es là un après-midi, j'y suis là un autre. D'ailleurs, on informe tout le monde que vu la chaleur, à partir de juillet, on va passer à des horaires matinales. Donc la boutique Yabladi sera ouverte le mercredi de 10h à 14h et le vendredi de 10h à 14h pendant tout le mois de juillet et même la première semaine d'août. Ensuite, il faudra quand même fermer, puisqu'en août, c'est vrai que Marseille est un peu déserte et on reprendra fin août. Mais tu es surtout là, Rislaine, parce que chaque fois que tu interviens, tu nous parles de quelque chose de très, très important. Souvent, on peut se désespérer avec, on a entendu la Dalia, on a entendu ces gens qui ont créé des collectifs depuis 10 ans, depuis 20 ans, depuis 30 ans, que ce soit des gens de l'association France-Palestine Solidarité, ou des gens qui se sont investis très fort là depuis le 7 octobre, que ce soit des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes. Et parfois, on peut être désespéré de voir que pour l'instant, c'est un engrenage terrible vers de plus en plus d'horreur, mais on a tous et toutes des façons d'agir individuellement, y compris simplement, par exemple, en boycottant certains des produits que des grandes entreprises nous proposent, alors que ces grandes entreprises investissent dans des colonies illégales, et je trouve que c'est très important. Et donc, Christiane, eh bien, on t'écoute à nouveau pour ce que tu nous transmets sur la façon dont on peut boycotter et dont on peut agir. Donc.
Alors, tout d'abord, l'appel au boycott de produits ou enseignes est protégé par le droit de la liberté d'expression, qui est un droit constitutionnel sous le respect de certaines limitations. La liberté d'expression est garantie par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. ce qui permet et inclut le droit de critiquer des produits ou des entreprises. Des tribunaux ont reconnu que les appels au boycott peuvent faire partie d'une expression légitime de mécontentement, notamment sur des questions sociales, économiques ou politiques. L'appel à boycotter, pour être légal, doit respecter certaines conditions. Non-diffamation et non-incitation à la haine. Les appels au boycott ne doivent pas comporter des propos diffamatoires ou inciter à la violence ou à la haine contre un groupe. Les raisons d'un boycott doivent être fondées sur des motifs éthiques, sociaux ou environnementaux. Par exemple, un boycott lié à des pratiques abusives ou à des atteintes aux droits de l'homme est plus facilement justifié. Et Teva, en effet, n'est pas une entreprise israélienne comme les autres. Teva est une entreprise pharmaceutique israélienne spécialisée dans les médicaments génériques et dans les composants actifs. C'est l'une des 25 plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde, avec 5,25 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2005 et 11,1 milliards de dollars en 2008. Premièrement, elle est un acteur majeur de la politique israélienne du médicament, qui a mis en place un libre accès pour les entreprises pharmaceutiques israéliennes, au marché palestinien, sans réciprocité. Cette même politique empêche aux entreprises pharmaceutiques palestiniennes de produire leurs propres médicaments génériques ou d'en acheter des moins chers ailleurs. Une différence de traitement qui a été dénoncée par la Banque mondiale comme constituant un des principaux obstacles au développement de l'économie palestinienne. Deuxièmement, elle est un acteur majeur de la politique israélienne de la santé, qui aboutit en pratique à ce que les Israéliens bénéficient d'une prise en charge médicale complète et diversifiée, alors que les Palestiniens demeurent peu ou mal soignés. En ce, en grande partie, du fait des restrictions mises par l'occupant israélien dans les territoires palestiniens à la liberté de mouvement des ambulances, à la formation du personnel médical, au bon fonctionnement des hôpitaux, à leur approvisionnement, en médicaments, en matériel ou en prothèses. La situation à Gaza, sous blocus israélien, depuis 2007, et à cet égard particulièrement dramatique et inhumaine. La situation du secteur de la santé en Cisjordanie, sans être aussi mauvaise, n'en demeure pas moins marquée du sceau de la discrimination. Seuls les collants ayant à la gamme de soins israéliens, l'apartheid israélien documenté par les rapports spéciaux des Nations Unies sur les droits de l'homme, Human Rights Watch, et des ONG palestiniennes et israéliennes, et aussi un apartheid médical. Troisièmement, l'entreprise est connue pour approvisionner en médicaments les populations, les pharmacies et les dispensaires des colonies israéliennes. Colonies illégales selon le droit international et dont la viabilité n'est possible qu'en raison de la complicité des opérateurs économiques israéliens. Teva fournit également à l'armée israélienne, pilier essentiel aux côtés de l'administration et des colons, de la politique de spoliation des terres menée en Palestine. Les raisons de critiquer cette entreprise et de boycotter ses produits ne manquent donc pas.
Voilà, merci beaucoup. C'est un sujet tellement compliqué, mais tu nous l'expliques très bien. Le sujet, bien évidemment, c'est pas de boycotter les Juifs ni les Israéliens. Le sujet, c'est de boycotter les entreprises qui se rendent complices d'actions clairement illégales par des colonies, donc par des colons, qui illégalement confisquent des terres, fabriquent des maisons, confisquent l'eau, et y compris les médicaments. Le sujet, c'est ça. Et donc, à un moment donné, l'État français voulait interdire boycott des investissements, solidarité, mais bien sûr que non. Encore une fois, il ne s'agit pas de boycotter des gens, il s'agit de boycotter des entreprises qui sont israéliennes, qui sont françaises. Par exemple, tu nous avais expliqué pourquoi il fallait boycotter Coca-Cola. Il y a mille raisons de boycotter Coca-Cola. D'abord, parce que ça fait 6 années consécutives que c'est le numéro 1 mondial de pollution en matière plastique, mais aussi parce que Coca-Cola, comme Puma, comme Carrefour, comme SFR, comme Teva et tant d'autres, sont des entreprises qui se rendent complices de gens qui agissent dans l'illégalité, qui assassinent des gens, qui confisquent leurs terres, bref, dont les actions sont clairement déclarées comme illégales et injustes par tout un tas de règlements internationaux. Et donc, c'est tout à fait légitime de boycotter ces entreprises, tant qu'évidemment, il n'y a pas de discrimination, etc. Voilà. Et donc, merci Rixen pour ça. Et puis, donc, il y a tout un tas d'activités qu'on peut faire individuellement. Quand on va dans un magasin, on voit un produit israélien, alors qu'est-ce que c'est, comment ça se fait, etc. Et puis, il y a des campagnes pour parfois mettre l'accent sur certaines entreprises, par exemple aller manifester devant une assemblée générale, et ces actions ont des résultats. Et il y a beaucoup d'entreprises qui ont arrêté leurs investissements ou qui les ont diminués parce que tout simplement, elles ont été obligées de prendre conscience que pour leur image, pour leur profit, c'était juste pas possible qu'elles se rendent complices de choses illégales. Voilà. Alors pour relier quelque chose, pour revenir encore à quelque chose de poétique, donc je relis un autre poème de cette Rana El-Khatib qui ont été publiés dans les années 2004 quand elle vivait aux États-Unis, et dont certains d'entre eux ont été traduits de l'anglais par Gérard Jougan et édités aux éditions Transit. Donc ce poème cette fois s'appelle « Courtier immobilier ». Vous avez signé le contrat, vous avez négocié une affaire, vous vous êtes installé dans ma demeure, oubliant que c'était un vol. Vous avez signé un pacte sans mon consentement. Vous avez chapardé ma maison et ensuite vous avez crié « loué ». Vous avez changé mes serrures, rebaptisé mes rues, nié mes droits, raillé ma défaite. Maintenant que vous avez cultivé, construit votre maison sur la mienne, vous continuez à fixer votre regard sur le peu qui reste. Repos assuré. Je ne peux oublier que cela était mien, de peur que vous nous l'oubliez. Encore un petit qui me plaît beaucoup, il s'appelle « Le mythe subsiste » parce que ce qui se passe actuellement de la part de l'État d'Israël, dirigé par Benjamin Netanyahou et tout un tas de gens d'extrême droite qui se revendiquent de textes bibliques, etc., comme si c'était des vérités absolues au-dessus de tous les droits humains. Donc ce poème de Rana El-Khatib s'appelle « Le mythe subsiste ». L'histoire que vous avez racontée comme un mythe légendaire subsiste. Ainsi, c'est nous qui nous avons promis de vous évincer à la mer, nous qui avons supporté le courroux de la mer. Votre histoire déconcerte le gai et le saturé. Votre mythe sont mauvais avec une indéniable puanteur. Voilà, parce qu'on a par ailleurs des gens à Marseille comme Pierre Stamboul, par exemple, qui est extrêmement important, qui est donc un des porte-parole de l'Union juive française pour la paix, et qui nous explique très bien, avec des mots très simples, que ces textes auxquels se revendiquent de l'Ancien Testament et autres, comme si c'était des vérités absolues, ben non, beaucoup d'historiens, d'archéologues montrent que non, ce qui est pris comme vérité absolue, qui devant être appliqué, ça s'appelle des mythes. Alors je crois qu'il est temps d'écouter une deuxième musique, mais cette fois on va entendre plus de percussions, plus d'hommes. Enfin c'est un groupe que je ne connaissais pas, que tu nous fais connaître aussi, Rislaine. Oui. Et donc pareil, quand on passe une musique, on peut aller voir les vidéos YouTube, tu m'as envoyé une vidéo, peut-être qu'on va la passer avec des trucs numériques. Bon, moi je ne suis peut-être pas de ta génération, mais j'aime toutes les musiques. Et donc on a choisi plutôt une version live, donc tu peux nous dire comment il s'appelle?
Alors c'est l'artiste, son nom c'est Saint-Levant.
Saint-Levant.
C'est un artiste français, algérien, palestinien.
Et il est les trois à la fois ?
Non, pas les trois. Il est français.
D'accord.
Son père est algérien, voilà. Et sa mère est palestinienne.
D'accord. Voilà. Mais j'imagine que Saint-Levant, c'est son surnom, parce que Saint, je croyais que c'était le chiffre 5. Non, c'est Saint comme un saint, le saint de l'Orient, quoi.
C'est un surnom, c'est un pseudo, okay. D'artiste.
Bon, d'accord. Alors on écoute ce fameux Saint-Levant, donc qui a des origines à la fois algériennes, palestiniennes et qui est français. Ça fait du bien. La musique.
Moteur et action. تركنا المدينة الغربة الحزينة سلم لي حريحة وسلم عالديرة يا دير الطال الأرض الكريمة يخدوش اللي فينا
سلم لي عريحة وسلم عالدينة يا خير
beaucoup Rislaine pour m'avoir proposé cette musique très festive, très rythmée, très belle, comme le savent faire ces ensembles de musique palestiniens. Et donc ce chanteur s'appelle Saint Levant. Et alors du coup, ça me fait penser tout de suite que là, on a dit, donc tous les deux, nous animons la fameuse boutique Fipsouk qui a ouvert à Marseille il y a 3 ans. Par ces gens qui sont basés en Aveyron et qui en plus ont créé également l'association Le Philistin. Donc cette musique festive me fait penser que les années impaires, donc c'est le cas cette année 2025, autour du 15 août se déroule un magnifique festival Palestine en campagne, mais cette fois au lieu de se dérouler en Aveyron, il va se passer à Bobigny. Donc le 15, 16 et 17 août, déjà tous ceux qui sont sur les réseaux, la programmation commence à vraiment bien se construire et on peut aller sur Instagram, etc. et taper Palestine en campagne 2025 et voir tout ce qui va se passer à Bobigny pendant 3 jours et 3 nuits. Et bien évidemment, dans les prochaines émissions, on vous tiendra au courant de l'évolution de la programmation. Ce festival a pour particularité, depuis, ce sera sa 6e édition, mais ça fait 15 ans qu'elle existe, puisque c'est 1 an sur 2, de faire venir vraiment des Palestiniens de Palestine. Donc c'est Jean-Marie Dansette qui travaille bien en amont sur le sujet, avec Sabri Giroud sur place, et puis bien sûr Belkacem et toute l'équipe de Bobigny. Voilà, mais du coup, je trouve que c'est déjà des couleurs bien festives, Rislaine, pour cet été. Je vois que tu as des boucles d'oreilles là, vraiment très belles en forme de pastèque. Et alors moi, je ne savais pas que ça existait. Tu nous as fait découvrir récemment un t-shirt magnifique. Tu peux nous en parler, s'il te plaît?
Alors, ce sont des t-shirts de l'association Pastèque Ta Ville. Et ce sont des t-shirts, l'argent récolté dû aux ventes de ces t-shirts sont reversés à l'association Palmed. Et c'est une association qui est constituée de médecins et d'infirmiers qui se rendent souvent à Gaza. Mmh. Et qui aide les Palestiniens.
Voilà. Non, merci, parce que moi, je tombe des nues. J'ai découvert ce t-shirt il y a quelques semaines, grâce à toi. Je pensais que c'était spécifique à Marseille. Parce qu'effectivement, mon Marseille, on aimait bien pastéquer, bouléguer. Hein, donc, le slogan, c'est pastèque ta ville. Et du coup, on a vu arriver des gens à la boutique qui venaient vraiment demander à vous en avez. Et puis, des gens qui partaient à Paris qui voulaient l'avoir. Et donc, j'ai compris que non, il existe dans plein de villes, en fait,
oui,
ce t-shirt.
Mais il devient collector. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'en reste pas beaucoup. Là, voilà. Il reste les derniers à la boutique. Et il est très demandé, il est très beau.
Oui.
Et...
voilà, donc c'est une autre façon d'agir très positive. D'abord, c'est d'arborer un beau t-shirt avec un beau design, avec un beau slogan, et de savoir effectivement que l'argent va aller directement à cette association Palmed, donc avec des gens de personnel médicaux. Et à ce sujet, d'ailleurs, je voudrais rappeler que le 4 mai dernier, nous étions cette fois à la salle Hangar au Chartreux, ou à l'initiative du collectif MACPAL, Marseille, Gaza, Palestine. On a pu rencontrer un médecin extraordinaire, le nom m'échappe, mais peu importe, qui travaillait à Gaza bien avant le 7 octobre, qui y travaillait pendant, qui y travaillait après, bref. Et puis qui, en tant que médecin, a témoigné tout simplement de ce qui se déroulait à ce moment-là dans les hôpitaux, les cliniques, les maternités. À ce titre, il a été agressé par le CRIF, qui a porté plainte contre lui. Il s'est présenté donc devant le Conseil de l'Ordre des médecins. Bon, il a été blanchi évidemment par le Conseil de l'Ordre, mais je crois qu'il y a des appels en cours. Toujours est-il qu'on a vu à ce moment-là des films d'une violence incroyable, où c'est pas possible de continuer à dire que non, on fait le plus possible pour pas atteindre les civils, quand on vise spécifiquement les maternités, non. Et puis au cours de cette soirée, il y a eu un deuxième film extrêmement puissant, cette fois sur les journalistes. Il faut rappeler que ces guerres abominables là, qui sont pas des guerres encore une fois, hein, c'est des entreprises coloniales d'extermination et de remplacement, ont tué beaucoup plus de journalistes là pendant les mois de la guerre à Gaza que pendant beaucoup plus d'autres guerres. Et donc on a pu voir un film très très puissant où il y avait trois journalistes, en l'occurrence un homme et deux femmes. Et ces journalistes, surtout les journalistes femmes, nous disaient que là c'était plus le moment de parler de politique, de faire de la rhétorique, etc., que toutes les actions, absolument toutes, doivent être concentrées sur la survie des gens qui sont à Gaza, parce que chaque fois que quelque chose avance, une nouvelle, un nouveau front s'ouvre, alors en ce moment-là, et c'est légitime, on parle de ce qui se passe entre l'Israël et l'Iran, mais du coup, là j'entendais ces jours derniers des témoignages de femmes qui sont en Iran, et qui disaient que bon, oui, bien sûr qu'il y a une volonté que ce régime change, mais que ça se fasse par les Iraniens, par les Iraniennes eux-mêmes. Et en tout cas, donc, tous les feux, c'est le cas de le dire, et les feux terribles nucléaires sont braqués sur l'Iran, mais pour autant, il ne faut surtout pas oublier ce qui se passe à Gaza. Et donc, ces journalistes, leur témoignage était extraordinaire, parce qu'elles savent que lorsqu'elles vont faire un reportage, elles sont traquées, mais elles laissent leurs enfants, enfin bref. Donc, ce film, contrairement à beaucoup d'autres films sur Gaza, passe en libre accès sur YouTube. Celui-ci, par contre, on peut l'avoir en demandant le lien vers le CCFD, le comité chrétien français pour le développement, CCFD Terre Solidaire. Donc on peut avoir le lien de ce film pour le diffuser dans des salles, dans des lieux, etc. Parce que le témoignage de ces journalistes est extrêmement puissant, parce qu'encore une fois, c'est très très compliqué de comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer, en tout cas de comprendre l'actualité. Nous, encore une fois, on a la chance d'avoir des gens qui sont sur place, comme Marie, là, avec son podcast « Yala, je t'emmène », qui est en ce moment à Ramallah, et Yael Sivan qui va revenir, Jean-Marie Dansette, le Philistin, qui a fait un long voyage dans les villes de Cisjordanie, malgré les routes bouchées, malgré les agressions des colons, pour rencontrer les gens qui pourront venir au festival. Et donc, encore une fois, le travail des journalistes est très, très important, et le travail des livres aussi. Voilà, donc en tout cas, je reviens sur l'agenda qui est très, très bien renseigné dans le site internet Asso Palestine 13, au jour le jour. Donc je rappelle qu'à la fin de cette émission, là tout à l'heure, au centre de la Vieille Charité, il va y avoir tout un événement sur aujourd'hui la poésie palestinienne, avec quatre femmes, je crois. Des fois, j'avoue que j'ai du mal avec les prénoms. Et puis, on est ici à la friche de la Belle de Mai. Alors en fait, là, on l'enregistre, hein, vous écoutez l'émission mercredi, mais souvent on l'enregistre le lundi. Et le lundi, il y a à la friche le petit marché de producteurs. Et au milieu de ce marché de producteurs, il y a une table avec Ramza qui propose une revue qui est extrêmement importante, qui s'appelle Revue Un Autre Monde. Elle paraît une fois par trimestre. Et elle rassemble des témoignages de gens, des gens de la rue, des gens érudits ou pas, qui ont des choses à dire, qui ont des choses à écrire, qui ont des choses à dessiner. Donc cette revue s'appelle Un Autre Monde. Le numéro 11 qui vient de sortir, le titre, c'est Culture Urbaine. Et comme par hasard, quand je l'ouvre, ben je vois à la page, je ne sais plus laquelle, mais je vais la retrouver, quelque chose évidemment sur Gaza. Ben, ça s'appelle la revue Un Autre Monde. Voilà. On peut la trouver donc, ben, tout simplement en tapant Un Autre Monde sur Internet. On peut la trouver tous les lundis, en fin d'après-midi, début de soirée, à la friche de la Belle de Mai. Et elle est présente également là, le premier dimanche de chaque mois à la Cité des Arts de la Rue, au fameux événement Un Dimanche aux Égalades. Voilà. Et donc l'article de la revue Un Autre Monde numéro 11 s'intitule Beyrouth et Gaza, suspendu au féminin pluriel. quand un graffiti à Marseille ravive la mémoire des bombes. Voilà, le texte est un peu long, je ne vais pas vous le lire maintenant, mais je vous invite à vraiment vous rapprocher de cette revue. Elle ne coûte que 3,50€ et elle mérite d'être diffusée, partagée. Elle s'enrichit de trimestre en trimestre. Voilà. Et puis parmi les médias importants aussi, on a eu donc fin mai la 4e édition à Marseille du Festival Ciné-Palestine. Alors les premières éditions, parce que je rappelle que ce festival existe depuis 11 ans à Paris, on a la chance que cette équipe constituée de bénévoles travaille sur Marseille depuis 4 ans. Alors les premières éditions, on avait des cinémas importants, mais qui n'ont que des petites salles. C'était le Vidéodrome au cours Julien, la Baleine, le fameux Polygone étoilé, un lieu très très important qui propose des scènes ouvertes de vidéos, de courts-métrages. Et puis on a eu le Gyptis qui s'est joint au festival, le Variété. Alors le Gyptis, ce qui est très bien, c'est que c'est comme c'est un ancien théâtre, il y a vraiment une salle immense, enfin finalement une vraie salle de cinéma. Alors le Variété nous accueille aussi, mais le Variété qui comportait autrefois 3 salles en comportement maintenant 7. Mais en fait, c'est super que ce cinéma nous accueille. On devait avoir une performance, une proposition, une projection au Mucem, mais bon, apparemment, ça a été reporté pour une prochaine édition. En tout cas, indépendamment du festival Ciné-Palestine lui-même, il y a toute l'année des événements cinématographiques. Et en l'occurrence, donc, on va à nouveau avoir un événement au Gyptis le 28, donc dans 3 jours, avec Cinéma Gyptis, donc Put Your Soul on Your Hand and Walk. Voilà, donc n'hésitez pas à consulter régulièrement cet agenda de la Soupe Palestine 13. Et puis, donc, on remercie encore Sidi. Donc on est fin juin, il fait chaud, mais on sera présent pendant toutes les émissions Une Heure en Palestine de juillet. Donc je vous rappelle que la première diffusion, c'est le mercredi de 18 à 19h. Puis c'est rediffusé le lundi suivant de 11h à midi. Et maintenant, avec les nouveaux moyens qu'a Radio Galère et vraiment toute l'équipe, c'est rapidement mis en podcast. Et donc on peut tranquillement réécouter ces émissions, les partager. Je crois que malgré tout, la radio, ça reste un média extraordinaire qu'on peut écouter dans tous les endroits où on se trouve facilement. Voilà, et donc merci Rislaine. Et tu nous avais proposé des sons d'ailleurs d'autres jeunes engagés dans toutes les manifestations du dimanche. Donc n'hésite pas, on est preneur d'interventions de personnes jeunes. Moi je suis un peu moins jeune et donc je suis très intéressé par tout ce que vous apportez, sachant qu'il faut les deux. Voilà, il faut les jeunes, il faut les vieux, il faut les hommes, il faut les femmes, et puis il faut Radio Galère qui continue de produire une heure en Palestine. Voilà, donc rendez-vous mercredi prochain. Merci à Sidi, merci à Rislaine, merci à Marie, merci à Dalia, ce collectif de Martigues vers les temps d'Ouest. Et puis voilà, on vous tiendra au courant de tout ce qui va se passer cet été. À bientôt. Mmh.